Jésus était-il Dieu ? Certains confondent les deux. Et il est vrai que certains, par exemple, pour dire qu'ils ne sont pas chrétiens, disent « moi, je ne crois pas en Jésus ». Ou encore, peut-être parmi les enfants, disent « je ne crois pas que Jésus a existé » ou « je ne crois pas que Jésus existe ». En fait, il est certain qu'on ne peut pas confondre les deux. On peut croire ou ne pas croire en Dieu. Quant à Jésus, c'était un personnage historique. Donc, il n'est pas question de se demander si Jésus a existé ou non. A priori, oui, Jésus a existé. Même les athées et les incroyants le pensent, tout au moins, et que Jésus a existé, comme Jules César a existé, Napoléon a existé, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir qui était Jésus. Donc, non pas si on croit que Jésus a existé, mais est-ce que l'on croit en lui comme on croit en Dieu ? Alors, cette question a fait couler beaucoup d'encre, et je dirais même beaucoup de sang. Et encore aujourd'hui, on pourrait croire que nous sommes libres de toute chose et qu'aujourd'hui, on peut facilement exprimer différentes opinions. En fait, ça n'est pas vrai. Et quand je parle, par exemple, à la radio, à Fréquence Protestante, si par hasard j'ai le malheur de dire que moi, j'ai plutôt tendance à penser que Jésus était un homme, eh bien, je reçois dans la semaine des dizaines de lettres d'injures, de menaces, avec copie au président de région, copie au président de national de l'Église réformée de France, copie au président de la radio, copie à tout le monde, à la terre entière, et en disant « ce monsieur qui se prétend pasteur, comment peut-il ainsi intoxiquer les âmes par de telles idées ?» Enfin, etc. Je vous passe le reste. Ce qui montre que j'ai de la chance qu'aujourd'hui il n'y ait pas de bûcher, parce que je crois que sinon je ne serais pas là pour répandre en vos âmes mes idées perverses. Et donc, c'est assez complexe. Mais néanmoins, je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension là-dedans. Parce que, par exemple, une fois où je présidais un service funèbre d'une dame de la paroisse qui avait une foi, je dirais, particulièrement rationaliste, et elle culpabilisait beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que jusqu'à sa mort, elle me disait que dans le fond, elle ne pouvait pas croire que Jésus était Dieu. Mais à part ça, elle croyait bien en Dieu, elle croyait bien dans l'Évangile, elle croyait en tout, mais elle disait « je ne peux pas croire que Jésus soit Dieu ». Et toute sa vie, elle a vécu dans ce sentiment de culpabilité, de se dire qu'elle n'était pas une bonne chrétienne. Alors j'ai essayé de la rassurer en lui disant « vous savez, aujourd'hui, toutes sortes d'opinions existent, et en particulier chez les protestants, on a quand même la liberté » d'avoir une christologie, comme on dit, qui nous convienne. Et donc, je disais cela en chair, et à la fin, quelqu'un m'a dit « Comment, mais donc, vous ne croyez pas que Jésus ait été le Fils de Dieu ?» Alors j'ai dit « Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Jésus soit Dieu, mais il peut être le Fils de Dieu sans être Dieu. C'est vrai que la foi chrétienne, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça peut s'entendre de différentes manières aussi. » Mais que Jésus soit le Fils de Dieu ne veut pas dire forcément qu'il soit Dieu. Et d'ailleurs, en général, dans notre monde, les fils ne sont pas identiques à leur père. Ils leur ressemblent, ils leur doivent la vie, mais on ne peut pas nécessairement prendre l'un pour l'autre. Ce n'est pas la même chose. Et pour certains, en effet, quand même, être chrétien, c'est croire dans la divinité du Christ. Et pour d'autres encore, ils disent que croire dans la divinité du Christ, c'est ça qui fait le point de différence avec l'islam. Et ils associent tout cela avec la doctrine de la Trinité, donc vous mélangez tout ça dans une grande marmite, vous touillez, et vous faites une soupe, je dirais, au dogmatisme, à l'intolérance, et à des choses dont finalement plus personne ne comprend rien. Alors je pense que il n'est pas vrai de dire que l'on ne peut pas être chrétien sans croire que Jésus soit Dieu. Il y a bien des chrétiens qui pensent que Jésus était un homme, et il y a des chrétiens qui pensent que Jésus était un homme très proche de Dieu, qui a dit, je dirais, des choses qui étaient tout à fait en adéquation avec Dieu lui-même, et qui a même agi, je dirais, de cette manière-là. Donc il était plus qu'un prophète, mais il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, et je ne vois pas pourquoi il faudrait le leur imposer. En fait, il faut bien dire qu'il y a des arguments dans les deux sens. contre le fait que Jésus soit Dieu, il y a quelques versets, dont l'un que je vous ai lu tout à l'heure, quand Jésus dit à propos de la fin du monde, « Personne ne le sait, seul le Père le sait, pas même le Fils. » Donc il y a des choses que Dieu sait et que lui ne sait pas. Donc il n'y a pas d'identité. Ou encore Jésus qui, à l'agonie de Gethsémané, dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Donc apparemment, il y a la volonté de Dieu et celle de Jésus. Ou encore Jésus qui dit sur la croix « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Enfin, des choses comme ça. Pour la divinité du Christ, il y a d'autres passages tout aussi importants. Il y a celui que je vous ai lu aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Quand le Christ ressuscité apparaît à ses disciples et Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Il y a le fait, précisément d'ailleurs, que les disciples appelaient Jésus « Seigneur ». Or, « Seigneur », c'est le titre de Dieu quand même, dans la Septante, dans la tradition juive de ce moment-là. Donc c'est un titre divin. Et puis il y a aussi tout le chapitre 1 de l'évangile de Jean sur l'incarnation, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et cette chair, c'est Jésus. » Bon, alors, cela a entraîné donc des disputes théologiques absolument insensées. Et cela, dès le début du christianisme. Dès le début, les chrétiens se traitent de tous les noms, dans un sens comme dans l'autre, suivant la conception qu'ils ont de Jésus. Et si on prend, le nom de toutes les hérésies qui ont fleuri à partir du 3 ou 4e siècle, on a l'impression d'être dans une bande dessinée de Tintin avec les insultes du capitaine Haddock, si vous voulez. Arien, patripatien, modaliste, nestorien, monophysite, sabellien. Ça impressionne aussi. Eh bien, tout cela, ce sont des noms, des hérésies, qui ont été réglées plus ou moins dans le sang, ou plus ou moins par l'excommunication, à ce moment-là. Et les grands hérésiarques ont des noms extraordinaires, qui, eux, me font rêver. Il y avait Théodoret de Cyre, Diodore de Tars, Théodore de Mopsueste. Tout cela était dans l'erreur, ils ne croyaient pas en Jésus comme il faut. Et puis, bien sûr, l'ineffable Nestorius, qui était ce qu'on appelle adoptionniste. Son idée, c'était que Jésus n'était pas fils de Dieu par nature, mais qu'il est devenu par adoption au moment de son baptême. Une voix vient du ciel, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et ça veut dire que Dieu choisit Jésus, qui était un petit garçon comme tout le monde et un homme comme vous et moi. Et tout à coup, Dieu dit « C'est celui-là mon fils ». Donc ça, c'est l'hérésie de Nestorius. Et j'avoue que j'ai une certaine tendresse pour l'hérésie de Nestorius. C'est pour ça que c'est la seule que je vous ai un petit peu développée. La théologie officielle de l'Église, là-dedans, elle était un peu gênée, je crois. Alors elle a essayé de maintenir les deux à la fois, Jésus homme et Jésus Dieu. Et elle a dit, Jésus a une double nature. Il est à la fois homme et à la fois Dieu. Et il y a les deux à la fois. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et l'Église officielle donc a rejeté tous ceux qui basculaient d'un côté ou de l'autre, soit du côté de l'homme, soit du côté de Dieu. Donc ils sont restés sur le fil du rasoir. Et ceux qui basculaient soit du côté de l'homme, soit du côté de Dieu, on les appelait donc, c'est l'une des insultes du capitaine Haddock, monophysites, c'est-à-dire une seule nature. Ceux qui basculent du côté de l'homme, c'est ceux qui disent « Jésus est un simple prophète, c'est un homme, et puis il a dit des paroles très proches de la volonté de Dieu, il a bien parlé de Dieu, et puis il a peut-être aussi bien agi en conformité avec cette parole, donc c'est plus qu'un prophète, mais c'est un homme comme vous et moi. » Ceux qui ont basculé du côté de Dieu, ce sont les hérésies qu'on appelle modalistes, disant « Jésus n'est pas vraiment un homme, c'est un mode de l'existence de Dieu dans le monde. » Et donc Dieu, finalement, apparaît dans le monde sous forme humaine, mais en fait, ce n'est pas vraiment un homme, c'est Dieu lui-même. Ces hérésies, on les a appelées aussi patripatiennes. Patripatiennes, ça vient de pater, le père, et patio, souffrir, parce qu'on leur disait, avec votre histoire de dire que Jésus égale Dieu, vous faites souffrir Dieu sur la croix. Or, Dieu ne peut pas être crucifié, et Dieu ne peut pas souffrir ni mourir. Et donc, on disait que c'était des mauvais, des méchants, des pas bons. L'Église officielle, elle a dit, non, c'est pas ça. Il y a en Jésus l'homme, et il y a aussi en Jésus du Dieu. Donc Jésus est pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu. Et tout cela, comme dit la bonne théologie, sans mélange, sans confusion. Ce qui veut dire qu'on peut séparer ce qui est de l'un et ce qui est de l'autre. Donc sur la croix, c'est le Jésus homme qui meurt, et ce n'est pas Dieu qui meurt. Mais quand Jésus dit des choses merveilleuses, c'est Dieu qui parle. En gros, c'est ça. Et on a, tout cela s'explique, je crois, dans une des formules qui date du pape Damase, à peu près aux alentours de 350 ou 400, qui dit, et là je suis prêt à le signer, si ça peut m'éviter le bûcher, même sinon, Jésus, c'est l'homme véritable, uni au Dieu véritable. Donc Jésus, c'est un homme parfait, complet, total, qui est parfaitement uni à Dieu. Et donc, entre nous, il y a toujours un petit peu en chacun de nous du divin, et Dieu est toujours présent un peu en chacun de nous, mais en Jésus, Dieu était pleinement présent. Et donc, ce n'est pas que Jésus soit Dieu, Jésus est un homme qui a incarné Dieu, et donc, en lui, il y a la plénitude de la présence de Dieu. Ça, c'est à peu près la théologie officielle, et donc, je renvoie dos à dos ceux qui disent « Jésus est Dieu », ça c'est faux, « Jésus est homme », c'est faux, « Jésus est homme et Dieu ». Alors vous me direz que je noie le poisson et que finalement tous ces débats théologiques n'ont pas grand intérêt, mais je vais vous dire pourquoi je vous en ai parlé. D'abord, c'est pour ouvrir des portes, parce qu'en effet, je voudrais vous dire très solennellement que vous avez le droit de croire que Jésus est Dieu, et vous avez le droit aussi de croire que Jésus est un homme tout plein de la présence de Dieu et qui nous a parlé de Dieu. Je pense que nous avons de la chance, je dirais, d'être effectivement dans un siècle où on a cette liberté et qu'on a le droit de se dire chrétien dans les deux cas. Et après, Dieu vous fera sa théologie lui-même quand vous le rejoindrez le plus tard possible. Aujourd'hui, je dirais que la plupart des hommes d'Église, ou des bons pratiquants, entre guillemets, sont plutôt monophysites du côté de Dieu. Et donc disent, attention, faut bien croire que Jésus est Dieu. Et la plupart des chrétiens de base, je dirais, sont plutôt monophysites du côté de l'homme. Et quand j'en parle à mes catéchumènes, je leur demande de se situer sur une échelle allant de 0 à 10. 0, Jésus homme pur, 10, Dieu homme pur, vous vous situez où là-dedans? C'est pas simplement pour m'amuser que je fais ça. C'est justement pour leur montrer qu'ils ont le droit de se positionner dans cette échelle quelque part et qu'il n'y a pas une obligation de dire « je suis ici ou là ». Et depuis quelques années que je suis pasteur, j'ai pu voir que dans cette échelle entre 0 et 10, donc de pourcentage de divinité, de dixième de divinité, en général, sur 10 catéchumènes, j'en ai 3 qui me disent « 0 », j'en ai 1 qui me dit 10, et les autres se situent entre 3 et 5. Alors, je devrais faire le test avant et après mon catéchisme pour savoir dans quel sens je les ai fait bouger. J'ai jamais osé, j'ai un peu peur. Mais c'est pour ça que j'évite de faire le catéchisme tout seul et je fais intervenir aussi des gens qui sont des bons croyants. Mais je crois que tout cela, finalement, n'est pas forcément très essentiel, parce que ne sommes-nous pas là un peu dans des tortillonnages d'esprit intellectuel? Et dans le fond, qu'est-ce que ça change? Quelle importance ça peut avoir que d'avoir une christologie ou une autre? Est-ce que ça a le moindre intérêt pour notre foi? Eh bien, je crois que ça en a. Et ça a des répercussions beaucoup plus importantes que vous ne pensez. Parce que on pourrait dire qu'effectivement, l'important, ce n'est pas la christologie, l'important, c'est de mettre sa confiance en Dieu, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, de le servir, de faire preuve de pardon, d'humilité, et que le reste, c'est de la théorie. Et que dans la pratique, en quoi l'on croit, eh bien, ça dépend. Certains ont plus de facilité à croire en Jésus qu'en Dieu. C'est pourquoi j'essaye d'ouvrir ces portes. Parce que Dieu, c'est assez difficile à comprendre. On a du mal à le concevoir, on ne le voit pas, il est absent, éternel, très loin, tout autre que nous. Et donc on a du mal à concevoir qu'est Dieu. Certains ont donc du mal à croire en Dieu en quelque sorte, parce que c'est trop abstrait. Et par contre, ils aiment bien Jésus, parce que Jésus c'est concret. On voit ce qu'il dit, ce qu'il fait, il a vécu, donc on imagine Jésus. Et certains chrétiens, donc, ont une foi qu'on appelle très christocentrique. C'est-à-dire, dans le fond, Dieu, ils rejettent ça un peu pour plus tard. Ils disent, moi, je crois en Jésus. Voilà, ça c'est simple, je vois ce que c'est. Pas de problème. Et c'est ceux qui finalement croient dans la divinité du Christ. Et pour cela, la divinité du Christ est une bonne doctrine. D'autres, au contraire, n'arrivent pas à faire cela. Ils disent « Mais Jésus, c'est trop concret, c'est trop matériel, trop humain. » Et ils ont besoin de croire dans un Dieu absolu, dans un Dieu transcendant, dans un Dieu éternel, immortel. Ceux-là, c'est ceux qui ne croient pas dans la divinité du Christ. Et en fait, c'est là que se joue, la doctrine des réformateurs. Parce qu'il y avait d'un côté Luther et de l'autre côté Calvin. Je dis pour simplifier, je m'excuse auprès des savants. C'est que Luther, lui, il croyait dans le Dieu totalement incarné. Et Luther, lui, ce qu'il aimait, c'était Jésus. Et c'est pour ça que l'on parle de l'intra-luteranum. C'est-à-dire que pour Luther, Dieu est tout entier en Jésus. Et donc, Luther, il aimait Jésus. Et le centre de sa foi, c'est le Christ. Et Luther disait, « Je ne peux pas croire dans un autre Dieu que dans le Dieu qui est incarné. » Calvin, au contraire, était le promoteur de ce que l'on a appelé ensuite l'extra-calvinisticum. Extra, ça veut dire en dehors. Et Calvin disait, non. Dieu, il n'est pas entièrement compris dans le Christ. Dieu est toujours en dehors du Christ. Et finalement, Dieu est peut-être un peu présent en Jésus, plus qu'en nous tous, mais il le dépasse. Il n'est pas enfermé dans Jésus. Il est aussi présent ailleurs et il est plus grand que Jésus. Sur ce point, je serais plutôt d'accord avec Calvin. Je crois effectivement, mais je ne m'en suis pas caché depuis le début, je crois effectivement qu'on ne peut pas dire que Dieu soit entièrement enfermé en Jésus. C'est vrai, Dieu était présent en Jésus, mais je crois que Dieu est trop grand pour s'enfermer dans une personne humaine, fût-elle celle du Christ. Et donc je suis très pour, moi, l'extra-calvinisticum, il y a du Dieu qui dépasse de Jésus. Et donc Dieu n'est pas... ne se réduit pas, je dirais, dans son incarnation, il y a du Dieu qui dépasse, du Dieu qui est en dehors. Parce que Dieu n'est pas enfermé, il peut être ailleurs, et ça a des conséquences très importantes. D'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas nécessairement que les chrétiens qui sont bons, mais peut-être que Dieu est aussi présent ailleurs que dans le Christ, et donc peut-être aussi, à la limite, théoriquement, que Dieu peut se révéler autrement qu'en Jésus. Vous voyez, ça devient très important. Dans l'intra-luteranum, il n'y a pas d'autre solution que d'être chrétien, d'une certaine manière. Dieu se révèle entièrement, complètement et pleinement en Jésus-Christ, et il est là et pas ailleurs. Pour Calvin, il peut être ailleurs. Donc finalement, ce Calvin que j'ai toujours détesté, grâce à l'année Calvin, je commence à le redécouvrir et à penser qu'il avait des mérites absolument extraordinaires. Et cet extra-calvinisticum est une idée absolument géniale et d'une modernité incroyable qui ouvre la porte, dirais-je même si Calvin ne l'a peut-être pas fait, je dirais, au dialogue avec les autres religions. C'est d'ailleurs pareil pour les sacrements, la communion, le pain et le vin. Là aussi, l'intra-luteranum et l'extra-calvinisticum jouent. Luther disait, dans les sacrements, Dieu est entièrement présent, le Christ est entièrement présent dans les espèces, et il est là, à la limite, pas ailleurs. Et Calvin disait, mais non, peut-être que Dieu est présent dans les espèces, mais Dieu ne peut pas s'enfermer dans un morceau de pain. Dieu dépasse infiniment tous les morceaux de pain de toute la terre, et donc non seulement le pain ne nous dit pas tout de Dieu, mais d'une certaine manière, il peut aussi être présent ailleurs et d'autres façons. Et donc il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas, je dirais, d'exclusivité. Et tout cela me semble extraordinairement moderne, en fait. Et puis, de dire que Dieu n'est pas enfermé en Jésus, cela veut dire aussi que, on peut croire que Jésus est divin, mais que pour Calvin, donc, il n'y a pas d'identification. C'est-à-dire que Dieu n'est pas enfermé en lui, vous disais-je, que Dieu dépasse, qu'il y a quelque chose en Dieu qui n'est pas en Jésus, et que Dieu, même s'il s'incarne en Jésus-Christ, reste, d'une certaine façon, le tout autre. Il reste incompréhensible, et il reste toujours au-delà de ce que l'on peut en savoir, de ce que l'on peut en dire, et de ce que l'on peut en croire. Donc pour Calvin, si vous voulez, Dieu s'incarne en Jésus-Christ, mais il reste aussi un peu dans le ciel, voire beaucoup. Eh bien, je vais vous dire, je crois qu'on a de la chance d'avoir deux grands réformateurs, parce que là encore, c'est une ouverture extraordinaire. Nous avons là deux sensibilités qui se complètent très bien, et donc nous pouvons trouver, je dirais, dans ces deux discours, quelque chose qui nous convienne au mieux. Dans l'intra-luteranum de Luther, donc, nous avons un Dieu proche, un Dieu qui s'incarne totalement en Jésus-Christ, voire, dirais-je, un Dieu qui meurt sur la croix. Alors ça n'est pas vrai, bien sûr, Dieu ne meurt pas sur la croix, mais la théologie luthérienne a donné, je dirais, naissance à certains théologiens qui ont même écrit un livre comme Moltmann qui s'appelle « Ce Dieu crucifié », en disant « Dieu meurt sur la croix », c'est-à-dire qu'il y a un drame qui se joue en Dieu dans la crucifixion. Et donc Dieu, pour Luther, n'est pas ce Dieu impassible qui verrait tout de très haut en étant touché par rien. C'est un Dieu assez étonnant, ce Dieu de Luther. Ce Dieu qui souffre avec nous, ce Dieu qui compatit, Dieu qui est présent dans nos vies, un Dieu qui est à côté de nous, un Dieu qui partage nos souffrances, un Dieu proche, un Dieu qui nous aime et qui s'est abaissé jusqu'à nous, et qui s'est humilié jusqu'à nous, et qui est présent, même, je dirais, dans la fange de nos existences, dans la boue de nos vies, dans les choses les plus petites, les plus difficiles, les plus dures, les plus lamentables de notre existence. Dieu s'est incarné entièrement, partageant cette dimension humaine. Dans l'extra calvinisticum, nous avons au contraire un Dieu fort, un Dieu incompréhensible, un Dieu au-delà de tout, un Dieu inaltérable. Je dirais un Dieu qui est, c'est le Dieu des psaumes qui est le roc, le Dieu qui est le rocher, la forteresse, un Dieu qui ne s'écroule jamais. Et on peut crucifier le Christ, Dieu reste debout, il reste présent, il ne vacille pas, il n'est pas blessé, il n'est pas tué, rien ne peut l'abattre. Eh bien, nous avons besoin de cela aussi dans notre vie. Quand tout chancelle dans notre vie, quand tout s'écroule, quand nous ne croyons plus en rien, il reste Dieu. Quand nous perdons l'amour même de nos proches, il reste Dieu, l'amour de Dieu, invincible, immuable et éternel. Eh bien, on a besoin aussi de ce Dieu fort, de ce Dieu immuable, de ce Dieu qui ne peut être atteint par rien. Le Dieu de Luther, c'est, quand je souffre, le Dieu qui s'approche et qui s'assied à côté de moi pour pleurer avec moi. C'est beau ça. Le Dieu de Calvin, c'est plutôt, quand je souffre, le bâton sur lequel je peux m'appuyer et qui ne fléchira pas. Le Dieu de Luther, c'est ce Dieu de tendresse qui me prend la main. Le Dieu de Calvin, c'est le Dieu forteresse, je dirais l'amarre solide, la barre d'acier accrochée dans du béton que je saisis lorsque je coule. Et c'est tout à fait différent. Je dirais que le Dieu de Calvin, c'est l'Éternel. Le Dieu de Luther, c'est le Père. Alors, quelle est la vérité? Et lequel des deux est le bon, pourrais-je dire? Eh bien, je crois que le bon, c'est celui qui vous convient. Et vous avez la chance d'être dans un système théologique ouvert. La seule chose, je dirais, c'est accepter d'avoir la foi que vous avez, ayez le Dieu qui vous convient, mais par pitié, n'essayez pas de l'imposer aux autres, ni de croire que les autres seraient de mauvais chrétiens. Ça, c'est la chose la plus essentielle. Et puis, sans doute, que la vérité, c'est d'avoir les deux à la fois. Évidemment, même si ça semble impossible, en fait, c'est là le mystère du christianisme. C'est qu'on est dans une dialectique. On a, Dieu est à la fois, je dirais, ce bloc de béton indéracinable, et en même temps, ce Dieu de tendresse qui pleure avec moi. Dieu est à la fois les deux. Et c'est ça, je crois, justement, la chose la plus extraordinaire de l'incarnation. C'est qu'il y a ceux qui laissent Dieu au ciel, Et ceux qui l'incarnent tellement qu'il est tellement par terre qu'il n'est plus au ciel, l'incarnation, c'est bien de dire que Dieu, il est ce Dieu au ciel qui s'approche de nous et qui nous touche. Et peut-être que, évidemment, il faut garder les deux, même si on est sensible plus à l'un qu'à l'autre, il faut essayer d'avoir les deux parce que chacun des deux dieux, dirais-je, n'est possible que si on a un peu l'autre. Si Dieu ne fait que s'approcher de moi pour pleurer avec moi, ça me fait une belle jambe, s'il n'est pas ce Dieu fort et éternel. Et si Dieu est le tout autre, l'infiniment autre, le totalitaire, alitaire, celui dont je ne peux rien dire, rien savoir et qui n'est totalement insensible à tout, ça me fait une belle jambe aussi. Ce qui est merveilleux, c'est justement de dire que ce Dieu éternel, ce Dieu fort, ce Dieu immuable, ce Dieu, je dirais, indéracinable, eh bien, il s'approche de moi en Jésus-Christ. Et que le Christ me dit justement, ce Dieu-là, il est là, à portée de ta main, à portée de ton cœur, à portée de ton âme, et que tu peux le tutoyer, et tu peux l'appeler Père. Amen.